Comme l'été dernier, tous les mercredis, en deuxième heure, nous partirons sur les pas d'un voyageur célèbre, celui auquel nous nous intéressons aujourd'hui, à voyager comme il a vécu, brièvement et intensément, Jacques Brel. En 1966, sur la scène de l'Olympia, devant une foule qui lui hurle « Ne me quitte pas », Jacques Brel fait ses adieux au tour de chant, après seulement 10 petites années de carrière qui ont suffi à faire de lui un monument de la chanson. Il s'essaie alors au cinéma, quelques années, puis en juillet 1974, en pleine gloire, il largue les amarres pour un voyage qui va le mener au bout du monde et au bout de sa vie. Parti pour un tour des océans, il jette l'ancre aux Marquises. Ce devait être une escale, ce sera sa dernière demeure. Comment s'est déroulé ce voyage? Qu'était-il parti chercher et qu'a-t-il trouvé? Dans un livre intitulé « L'aventure commence à l'aurore » aux éditions de l'Archipel, Fred Hidalgo, grand spécialiste de la chanson, créateur de revues et éditeur de livres de référence dans ce domaine, raconte cette vie d'après de Jacques Brel, celle qu'il a menée aux côtés des Marquisiens, loin du show business. Il a enquêté, est parti sur les traces du chanteur jusque dans l'archipel polynésien. Une édition augmentée intitulée « Le voyage au bout de la vie » paraîtra le 12 septembre prochain. Aujourd'hui, le temps d'un bivouac, Fred Hidalgo nous emmène aux Marquises sur les pas du grand Jacques.
Moi j'avais envie d'être... Je dis toujours Vasco de Gama, mais en fait c'est pas lui. C'est aussi bien Cook que Magellan. Ça devait être prodigieux tout de même. Des gens qui partaient chercher les Indes. Il y avait juste ce paquet de terre qu'on appelle l'Amérique entre les deux. C'est quand même prodigieux. Enfin, ces gens partaient... Ils étaient... Il y avait une folie, enfin... Véritable, était-ce de l'orgueil? Il devait y avoir une part d'orgueil, une part d'inconscience, une part de volonté aussi, je sais pas. J'aurais bien aimé pouvoir faire ça.
Jacques Brel est l'appel du large et de l'ailleurs, une part d'inconscience, une part d'ego. Il avait depuis tout ce tout petit ce but du voyage en lui, Fred Hidalgo.
Oui, Jacques Brel était un homme de rêves et de défis successifs. Et il disait que, arrivé à 17 ans, ça y était, un homme avait tous ses rêves et qu'il passait le temps de sa vie à les accomplir. Ouais. Et donc le rêve du tour du monde à la voile, ça il l'a eu tout petit.
Ouais. Alors dans quel contexte familial il grandit, Jacques Brel? Famille catholique, d'industriel?
Oui, bourgeoise. Ses parents avaient une cartonnerie, ouais. Et il était destiné tout simplement à prendre la succession, ouais. La direction de la cartonnerie.
Donc il va même y travailler un petit peu dans cette cartonnerie.
Oui, il travaille au début, oui, mais ça ne va pas durer longtemps. Il se rend compte qu'il n'est pas fait pour ça. Ouais. Et ça va être sa première imprudence, et ouais. Qui sera suivie de beaucoup d'autres. Ouais. Il va quitter ce milieu-là.
Bah, il va quitter la cartonnerie, mais il va cartonner dans d'autres domaines, hein, en quelque sorte. Et vous le disiez, hein, les rêves de jeunesse de Jacques Brel sont encore bien ancrés en lui, car pour lui, un homme n'en a jamais fini avec son enfance.
Un homme passe sa vie à compenser son enfance. Je m'explique, je crois qu'un homme se termine vers 16-17 ans. Une loi générale, enfin. Mais vers 16-17 ans, un homme a eu tous ses rêves. Il ne les connaît pas, mais ils sont passés. Ils sont passés en lui. Il sait s'il a envie de brillance ou de sécurité, d'aventure. Il sait. Il le sait pas bien, mais il a ressenti le goût des choses, comme le goût du chocolat, comme le goût de la soupe aux choux. Il a le goût de ça. Et il passe sa vie à vouloir réaliser ses rêves-là. Et je crois qu'à 17 ans, un homme est mort, ou il peut mourir. Et après, je sais en tout cas que moi, j'essaie de réaliser les étonnements, plutôt que les rêves. J'essaie de réaliser les étonnements que j'ai eus jusqu'à, mettons, 20 ans, enfin. Et à 40 ans, on s'en aperçoit.
Toujours aussi entier et définitif, à 17 ans, on est mort, on a déjà tous ces rêves en soi, à soi de choisir si on réalise ou pas.
Oui, et ben c'était quelqu'un de très péremptoire, hein, et souvent de contradictoire aussi. Oui. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui était toujours dans le mouvement. C'est-à-dire que pour lui, l'immobilité, c'était la mort. Ouais. Et c'est pour ça qu'il disait que la mort ne devrait pas exister, parce que la vie, c'est le mouvement. Et donc, il n'a pas arrêté de bouger de toute sa vie, en passant de la cartonnerie à la chanson.
Ouais. Alors, la chanson, c'était l'un de ses rêves de jeunesse. Mais il en avait plusieurs, mais la chanson en faisait partie.
En faisait partie. Il écrivait déjà des textes, des poèmes, et donc il commençait à gratouiller de la guitare. Oui. C'est, ouais. Et puis la comédie en même temps, puisqu'il jouait aussi la comédie dans l'institut où il était. Et donc tout ça, c'était des rêves qu'il avait.
Mais
et...
c'est un rêve auquel il accède facilement ou on a l'impression que sa carrière de chanteur, voilà, en 10 ans, il explose. Est-ce qu'il a galéré ou pas?
Ah oui, il a galéré. Alors, en gros, il démarre à Paris aux Trois Baudets, au théâtre des Trois Baudets de Jacques Canetti en 1953. Et en fait, il a démarré l'année précédente en Belgique dans des petits cabarets où il n'avait aucun succès, sous un pseudonyme d'ailleurs, c'était Jacques Beurel.
Ah oui.
Voilà, parce que son père ne voulait pas qu'il prenne le nom de famille. Et puis il arrive à Paris, et là il va galérer trois ans à peu près, hein, puisque son premier grand succès, qui va le rendre vraiment connu tout le monde, c'est Quand on a que l'amour, fin 56, début 57. Mais auparavant, il va chanter dans 4, 5, 6 cabarets différents la nuit à Paris, simplement pour gagner sa vie. Donc il dira qu'il faisait l'équivalent d'un tour de chant complet d'aujourd'hui, quoi. Il chantait une vingtaine de chansons.
Donc la période vraiment de célébrité où il connaît la gloire, ça dure 10 ans, 56, 1966.
C'est ce que vous avez dit, oui, exactement, c'est-à-dire Quand on a que l'amour, jusqu'à ses adieux à l'Olympia, donc jusqu'au 1er novembre 66, et après il aura les derniers contrats qui avaient été signés, donc ils vont le mener jusqu'au 16 mai 67, son dernier concert a eu lieu à Roubaix.
Ouais, à quel moment il prend cette décision? Comme toujours, on va le voir dans cette émission, toujours très coupante, très tranchante et très définitive, à quel moment il décide, c'est la fin des tours de chant.
Alors, ça a été immédiat, c'est-à-dire qu'un jour, il était à Laon, on le sait, c'était au début de l'été 1966, et là, il se rend compte très vite qu'il a doublé machinalement un couplet des vieux. Et lorsqu'il sort de scène, il avait un grand ami qui l'accompagnait toujours, son secrétaire, confident, homme à tout faire, qui s'appelait Jojo, enfin qui l'appelait Jojo, et il lui dit « j'arrête ». Effectivement, quelques semaines plus tard, il dira à ses musiciens « j'arrête ». Et donc, 6 mois plus tard, il fait ses adieux à l'Olympia.
Alors, il va ensuite entamer une carrière d'acteur, de comédien, qu'il avait déjà un peu commencé. Il fait des films, Les risques du métier d'André Cayatte. Il va au théâtre aussi, hein, il va sur scène.
Oui. Alors, les films, il y a aussi Mon oncle Benjamin, qui est sûrement le film qui lui correspond le plus. Et puis, il avait un autre rêve, c'était la comédie musicale. Et donc, là, il adapte en français une comédie musicale américaine, L'homme de la Mancha. Mm-hmm. Mais les chansons qu'on connaît, ce sont des musiques américaines, mais les textes, c'est vraiment du Brel. Et donc, il incarne ce personnage qui était en lui-même depuis toujours, parce que Don Quichotte, c'était une passion. Et donc, voilà, c'est un autre de ses rêves qui s'accomplit. Ouais. Et après, bon, bah, il lui reste... À prendre le large.
Alors, en parallèle de ses activités artistiques, déjà en amont, dès 1970, on sent que le rêve d'évasion est en train de mûrir. Il prend des cours de pilotage, il apprend à piloter les avions. Il fait de la voile aussi, il se met à la voile. On sent que le démon de l'ailleurs est en train de le prendre.
Oui, en fait... découvre la voile au début des années 60. Il s'achète un premier voilier, l'Albena. Là, il est sur la côte d'Azur. Il a une petite maison à Roquebrune, Cap-Martin. Et avec un ami, il s'achète un petit voilier. Il commence à naviguer. Il prend des cours. Il commence à naviguer en Méditerranée. Et puis en parallèle, puisque ça remonte à 64-65, il prend des cours de pilotage. Il passe son brevet de pilote privé. Simplement parce qu'avec son impresario, Charlie Marouani, il s'est rendu compte que c'était plus facile de chanter le soir à Biarritz et puis le lendemain à Roubaix, mettons, de le faire en avion plutôt qu'en voiture. Mais là, il va découvrir l'avion et il se dit il faut absolument que je passe tous mes brevets. Et je vous parlais de ses brevets de pilote privé, mais il va avoir des brevets de pilote professionnel jusqu'au... Il aurait pu... copiloter un Boeing 747, par exemple.
Oui. C'était pas dans la demi-mesure, hein. Quand il s'y mettait.
Toujours, il allait toujours à fond.
Ouais. Alors, dès 1966, hein, quand il arrête de chanter, l'information filtre un peu dans la presse que Brel a l'intention de partir loin un jour. Alors, les journalistes le pressent de questions. Il répond, mi-agacé, mi-amusé.
Si on vous abreuve un petit peu de questions en ce moment, Jacques Brel, c'est parce que vous les avez provoquées, ces questions?
Non, pas du tout. C'est parce qu'un journal a dit que je m'en allais.
Et c'était pas vrai?
Mais si, mais je voulais pas l'annoncer, moi.
Pourquoi partez-vous?
Parce que j'ai envie d'être un peu plus libre, d'un peu voir des choses, voilà.
Quel âge avez-vous?
37, 38 ans.
Votre vie n'était pas installée, elle n'était pas faite.
Elle n'est toujours pas faite, elle n'est toujours pas installée, j'en suis ravi.
Ah, moi je pensais que peut-être...
Je crois que des gens ne s'installent jamais. J'ai l'impression que je ne serai jamais tout à fait adulte. Il y a longtemps que j'ai cette impression-là, puis ça s'aggrave. Et puis, je n'ai pas envie de m'installer, j'ai envie d'être sur une branche.
Vous êtes fatigué ?
Non, je suis en pleine forme. J'ai même grossi de 2 kilos, je vais bien.
Oui, moi, c'est vrai d'ailleurs, je vous trouve
j'ai
en pleine
bonne
forme.
Nuit.
Oui, je vous trouve très très bien. Oui. Voilà, je suis
ni malade, ni malheureux, et ni dans un état de doute et de trouble. Il y a très longtemps que je m'étais dit que j'allais m'arrêter comme ça. Hein. Ça n'est pas une décision nerveuse.
Vous allez vivre d'une façon que vous préférez ?
Je vais essayer.
Laquelle ?
J'aimerais bien vivre sur un bateau, enfin, le plus souvent possible et le plus longtemps possible.
Un bateau qui bougerait ?
Un bateau qui bougerait.
Et qui irait où ?
Qui irait où je le mènerais.
Avec qui ?
Avec moi.
Des chansons dans la tête ?
Ouais, des chansons. Je vais continuer à écrire des chansons, j'ai envie.
Mais votre carrière dans tout ça, le public a besoin de vous voir et vous avez besoin, vous aussi, d'être avec le public. Ça ne vous ennuie pas un petit peu ?
On n'a pas besoin d'être avec le public, on a besoin d'être avec les hommes. On a besoin de savoir le prix du pain tous les jours.
Ça n'est pas un de ces grands départs, vous ne partez pas drapé.
Mais non, je suis ni drapé ni détrapé. J'ai envie d'un peu d'une forme de liberté, je n'arrive pas à bien préciser ça. C'est une envie de liberté, une envie de prendre d'autres risques que ceux que j'ai. Peut-être que je n'ai plus assez peur, peut-être qu'il faut que j'aie plus peur que ça pour être bien dans ma peau, je ne sais pas.
Vous aimez le danger ?
Ouais, j'aime.
Et vous trouvez qu'il est dangereux d'abandonner le public et puis tout d'un coup de revenir et puis de refaire sa conquête ? Je pense que vous n'aurez pas à refaire sa conquête parce qu'il ne vous aura pas oublié.
Ah, je crois pas que je reviendrai, voyez-vous. Je crois vraiment pas.
Fred Hidalgo, tout a l'air assez prémédité. Avant de partir, il sait déjà que c'est un aller sans retour. C'est pas une pause qu'il s'apprête à faire dans sa carrière, c'est un changement de vie définitif.
Oui, oui. Alors d'abord, je voudrais dire que c'est une archive formidable. Je n'avais jamais entendu.
Ah, on arrive à vous surprendre sur Brel.
Ah, c'est extraordinaire, vraiment. Ça me fait penser à une interview qu'on avait faite de Juliette Gréco qui disait que Brel, quand il a dit qu'il partait, lui au moins, il est parvenu, elle nous a dit. Et c'est vrai qu'on a l'impression que tout est prévu. En réalité, je ne pense pas que c'était aussi prévu que ça. Il avait cette idée de tour du monde à la voile, ça c'est clair depuis très longtemps. Mais ça ne devait pas être clairement formulé encore, mais on voit bien là que le showbiz s'était terminé et qu'il continuait quand même à vouloir écrire des chansons, pas chanter.
En juillet 1974, Brel largue donc les amarres. Il ne le sait pas encore, mais sur sa route, une île va changer le reste de sa vie.
Une île au large de l'espoir. Où les hommes n'auraient pas peur, et douce et calme comme ton miroir. Une île claire comme un matin de Pâques, offrant l'océan longueur d'une sirène à chaque vague. Oh, viens mon amour, là-bas ne seraient point ces fous qui nous disent d'être sages ou que 20 ans est le bel âge. Voici venu le temps de vivre, voici venu le temps d'aimer. Large de l'amour, posé sur l'autel de la mer, satin couché sur le velours. Une île chaude comme la tendresse, espérante comme un désert. Qu'un nuage de pluie caresse. Oh, viens, viens mon amour, là-bas ne seraient point ces fous qui nous cachent les longues plages. Viens mon amour, fuyons l'orage, voici venu le temps de vivre. Voici venu le temps d'aimer. Une île qu'il nous reste à bâtir. Mais qui donc pourrait retenir les rêves que l'on rêve à deux? Une île, voici qu'une île est en partance et qui sommeillait en nos yeux depuis les portes de l'enfance. Oh, viens, viens mon amour, car c'est là-bas que tout commence. Je crois à la dernière chance et tu es celle que je veux. Voici venu le temps de vivre, voici venu le temps d'aimer une île.
Daniel Fievé, le temps d'un bivouac.
Une île, cette chanson de Brel, qui la composera aux Marquises entre 1976 et 77, mais nous n'en sommes pas encore là. Fred Hidalgo, auteur de L'Aventure commence à l'aurore aux éditions de l'Archipel. En juillet 1974, Jacques Brel part à bord d'un bateau qu'il a acheté, l'Ascoy, qui est à bord de ce bateau.
Alors, ils sont trois en réalité, parce qu'il y a quand même deux marins, mais c'est deux marins qui n'ont que le nom, qui vont débarquer très très vite parce que ils vont s'avérer des boulets plutôt qu'autre chose. Donc il y a Jacques Brel, il y a sa fille France Brel, parce qu'au départ c'était avec elle qu'il comptait faire le tour du monde, et puis il y a sa nouvelle compagne qui s'appelle Madly Bamy, qu'il a rencontrée sur le tournage de L'Aventure c'est l'aventure, le film de Claude Lelouch avec Lino Ventura, etc. Et il se trouve que c'est elle qui s'est installée sur le bateau, parce que à ce moment-là, il sortait d'une autre histoire d'amour aussi avec quelqu'un de Roquebrune dont je parlais, où il avait une petite maison. Mais le voyage, donc, normalement, devait s'effectuer avec sa fille. Et sa compagne.
Alors, il s'élance sur les mers avec l'idée de faire le tour du monde. Mais cette première tentative va tourner court aux Canaries, à Tenerife. Il est arrêté par la maladie.
Oui, alors là, on est le 20 octobre, donc deux mois après le départ, simplement. Il est saisi d'une douleur dans la poitrine et on doit l'hospitaliser aussitôt. Les médecins ne savent pas s'il s'agit d'une crise cardiaque, d'une pneumonie, d'une tuberculose. Bref, avec sa compagne, il décide de rentrer en Europe pour passer un check-up. Et puis là, il est en Suisse, à Genève, et on lui décèle tout de suite un cancer du poumon gauche, et avec la nécessité impérieuse de procéder à l'ablation dans les meilleurs délais.
Donc on lui enlève un morceau de poumon.
Oui, un gros morceau de poumon. Et puis donc ça a lieu à Bruxelles le 16 novembre. Et à ce moment-là, les médecins lui demandent de passer au moins deux mois de convalescence. Sauf que c'est Jacques Brel, les risques, hein, il en parlait tout à l'heure, l'imprudence, il n'y a pas de temps à perdre. Et cinq semaines après l'opération, cinq semaines seulement, il se lance dans la traversée de l'Atlantique. Mmh. Alors avec sa fille, avec sa compagne, et puis lui complètement diminué, handicapé, à qui on a scié la poitrine.
Ouais. En pleine convalescence. Et il écrit comme mot d'excuse à son chirurgien qui lui avait ordonné de se calmer un peu pendant quelques mois. « Je te jure qu'il est urgent d'être heureux. »
Voilà, et il avait bien raison.
Oui, quand on connaît la suite de l'histoire, il avait raison. Hein, mais c'est vrai que c'est tout Jacques Brel. Il est urgent d'être heureux, l'art de la formule, le panache. Alors là, il traverse l'Atlantique, passe par le canal de Panama. Il évite les Galapagos.
Oui, alors d'une part, je voudrais dire que jamais il a remis en question son tour du monde. Hein. Ouais. Un poumon en moins ou pas, c'était pas la question. À aucun moment, il a hésité. Donc, alors, il file les Antilles, le Venezuela, le canal de Panama, et puis le 22 septembre, comme dirait Georges Brassens dans une de ses chansons, il se lance dans la traversée du Pacifique. Alors en général, on fait escale aux Galapagos, c'est la première escale hein, quand on traverse le Pacifique, sauf qu'à l'époque c'est une dictature militaire, et puis bon, Jacques Brel et les uniformes, ça fait deux, en plus c'est pas facile non plus d'obtenir des visas, et donc il décide de mettre le cap directement sur les premières terres, les îles droit devant, comme il dira dans sa chanson Les Marquises, donc il écrira sur place, et En gros, pour arriver là-bas, c'est Ivaoa, la première île que l'on touche. Il faut compter un mois, grosso modo. Sauf que, en évitant les Galapagos, il va éviter aussi les Alizés. Il va se retrouver dans ce que les marins appellent le poteau noir. Et donc, il va mettre deux mois.
Il n'y a pas de vent. Le bateau n'avance pas. En plus, c'est un bateau assez lourd, hein, assez gros, difficilement manœuvrable. Lui est diminué. À bord, ce ne sont pas des expertes de la voile sont là pour l'accompagner.
Ah non, mais là, ils sont deux, simplement. Ouais. Hein. Ah oui, parce que France, sa fille, a débarqué aux Antilles. Ouais. Et donc, il se retrouve avec Madly, qui n'a jamais navigué. Lui, donc, un homme quand même diminué, sur un bateau beaucoup trop lourd qui pèse 42 tonnes. Juste pour dire, parce que ça correspond à l'émission, le Penduic de Tabarly, sur lequel il a traversé, avec lequel il a remporté la Transat, ne pesait que 17 tonnes, alors qu'il était plus long de 4,5 mètres que celui de Brel. Donc, c'était un exploit absolument colossal, surtout dans ces conditions-là.
Donc, un bateau gigantesque, surdimensionné, trop lourd. Et donc, il arrive deux mois. Au lieu de mettre un mois, il met deux mois pour arriver à Ivaoa, cette île de l'archipel des Marquises. Et on l'imagine, il arrive exténué, fourbu.
Voilà, épuisé, complètement harassé, il le dira. Et il se déclare, dans les jours qui suivent, dégoûté du bateau. Ouais. Et on le saurait à moins.
C'est important de savoir ça, parce que l'état d'esprit, lui qui était parti pour un tour du monde, déjà, il est plus si sûr que ça d'avoir envie de passer sa vie sur un bateau.
Alors, exactement.
Dans votre livre, Fred Hidalgo, vous reproduisez ce qu'a dû être son arrivée au bureau de poste à Ivaoa, quand il arrive sur l'île. Une scène qui a été reconstituée pour Affaires Sensibles, la fiction de Fabrice Drouel.
Bonjour et bienvenue aux Marquises.
Merci. Je pense que j'ai du courrier en poste restante.
À quel nom ?
Brel. Jacques Brel.
Ah, monsieur Brel, j'ai bien fait de garder votre courrier plus longtemps que ce que j'aurais dû. Avec le poteau noir qui peut vous arrêter des semaines entières, pour les marins, je rajoute du temps. Comme quoi, ce n'était pas inutile.
Merci. Mais hein ? Eh ?
Et quoi ?
Je peux l'avoir, le courrier ?
Oui, mais...
Oui, mais quoi ?
J'ai besoin d'une pièce d'identité ou d'un passeport.
Ah, mais je suis Jacques Brel, je vous assure.
Sans doute, monsieur Brel.
Vous ne me reconnaissez pas ?
Excusez-moi, mais une pièce d'identité est indispensable. Je ne peux pas délivrer de courrier sans être sûr de l'identité de la personne. Ne m'en voulez pas, c'est indispensable.
Ah, bien sûr, je comprends. Tenez.
Jacques Brel. B-R-E-L. Ah, vous êtes belge ?
Ouais.
C'est parfait. Je vais chercher votre courrier. Il y en a tellement, je l'ai mis dans un petit sac de poste. Donnez-moi une minute, j'arrive.
C'est fou, ça, Doudou. Il ne m'a pas reconnu.
Je vois ça, peut-être qu'il ne sait pas qui t'es, tout simplement.
Ah, ça me plaît.
Ça change de la métropole.
C'est ici qu'on doit vivre. On est complètement incognito. C'est ce qu'il nous faut. Hein.
Aux Marquises, Jacques Brel est un parfait inconnu et ça ne le vexe pas, au contraire, Fred Hidalgo, ça lui plaît énormément.
Ah, ça lui plaît, il est très très content parce que en partant, il ne fuyait pas que le showbiz, parce qu'il est arrivé au bout de ça, hein, de sa carrière de chanteur et de comédien et de metteur en scène, il fuyait la notoriété tout simplement. À un moment donné, il dira que le mot vedette, c'est un terme obscène. Ouais. Donc il arrive là-bas et on ne le connaît pas tout simplement parce qu'on est en novembre 75, il n'y a pas d'électricité à Ivaoa. Ce sont des îles, les Marquises, complètement oubliées de Tahiti, hein, des autorités de Tahiti. Ils ne parlent pas la même langue, etc. C'est à 1500 kilomètres. Et donc, il n'y a pas d'électricité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de radio, pas de télévision, pas de cinéma. Et Jacques Brel est totalement inconnu. Alors ça, il est ravi.
Ouais, alors, dans un premier temps, il souhaite rester un peu pour se reposer. On l'a compris, il était fatigué. Puis finalement, il va complètement tomber sous le charme de cette île.
C'est-à-dire que dans les jours suivants, il aura l'occasion de visiter plusieurs parties de l'île, en particulier la partie haute, celle où il y a la piste d'aviation et où on respire beaucoup mieux. Et là, il se dit, mais c'est fabuleux, c'est vraiment ce que je recherchais, c'est mon île. Mmh. Et il va prendre la décision très vite de s'installer là. D'une part, parce qu'on l'a dit, il était fourbu, le bateau, il est dégoûté. Pour lui, c'est une page qui se tourne, une de plus. Et puis, parce qu'il tombe amoureux de ces îles où il est inconnu.
Alors, vous y êtes allé, hein, vous-même, Fred Hidalgo, aux Marquises, sur les pas de Brel, vraiment pour voir les lieux, pour rencontrer les gens. On parlera des gens que vous avez rencontrés tout à l'heure. Mais déjà, l'impression, quand vous êtes arrivé sur ces lieux, c'est un archipel particulier, hein, les Marquises. Ah, oui. On n'est pas du tout dans la carte postale polynésienne avec les lagons, l'eau claire.
Ah non, pas du tout. Et donc, je n'étais jamais allé là-bas. Alors, je suis d'abord passé par Tahiti, les Tuamotu. Ouais. Donc là, ça
là
va,
c'est le lagon.
C'est conforme.
C'est conforme à la carte postale.
À la carte postale. Et en arrivant là-bas, non, c'est incroyable. Moi, j'imaginais Jacques Brel arriver en bateau, en voyant ces îles basaltiques avec des monts, des pics, des reliefs. Tout de suite, les fonds tombent à 4000 mètres dans l'océan. Et puis, il y a un panache de brume à Atuona, par exemple. Il y a deux, trois monts de plus de 1000 mètres. Et donc, il y a toujours de la brume qui s'accroche en haut de ces monts. Et puis, c'est majestueux, quoi. C'est vraiment majestueux. Et c'est pour moi, c'est des îles qui auraient pu s'appeler Jacques Brel, tellement elles sont...
Faites pour lui.
Exactement.
Alors avec Madly, il prend le temps d'explorer les différentes îles qui composent l'archipel des Marquises. Il y a 12 îles, dont 6 seulement sont habitées. Et c'est bien sur l'île d'Ivaoa qu'il décide de s'installer définitivement. Vous allez nous raconter dans un instant ce que Jacques Brel a fait aux Marquises et les liens qu'il a noués avec les habitants de l'île d'Ivaoa. Fred Hidalgo, le temps d'un bivouac aux Marquises, sur les pas de Jacques Brel.
Il y a des moments où, de temps en temps, bon, on écoutait. Et bon, on repense au bon moment qu'on a passé ensemble, quoi. Et on le regrette qu'il soit parti si vite, car il avait encore beaucoup, beaucoup à donner, à l'entendre pour faire progresser, faire connaître, faire aimer les Marquises. Il avait énormément de projets et c'est vraiment dommage qu'il nous ait quittés si vite.
Un Marquisien qui a connu personnellement Jacques Brel et qui manifestement en garde un souvenir ému. Fred Hidalgo, c'est donc sur l'île d'Ivaoa que Jacques Brel décide de s'installer. Il ne choisit pas le confort et la facilité, hein, parce que l'île principale des Marquises, c'est Nuku'iwa. Ça aurait été plus confort, avec plus de commodité. Il aurait pu avoir un hôpital à proximité. Il ne choisit pas la facilité.
Voilà, parce que vous l'avez dit, il n'y a pas d'hôpital à Ivaoa, mais il n'y a pas de médecin non plus. Il y a simplement un dispensaire avec deux infirmiers. Et donc il y a un certain nombre de commodités qui existent à Nuku'iwa et pas du tout à Ivaoa. Juste pour dire, le marquisien en question, c'était le maire d'Atuona, donc que Jacques Brel a bien connu. Ouais. Et c'est ce maire-là, Guy Rosy, qui a tracé la piste d'aviation lui-même avec un bulldozer. Ça a été quelque chose d'assez exceptionnel.
Atuona, c'est sur l'île d'Ivaoa.
Oui, c'est la ville principale de l'île d'Ivaoa, mais en fait c'était une bourgade. Hein, il y a 2200 habitants sur l'île, 1500 environ à Atuona.
Alors à quoi ressemble la maison dans laquelle Jacques Brel va vivre et s'installer à Ivaoa? Quel décor autour? Quelle vue?
Alors, la vue est magnifique puisqu'elle donne sur... Elle est un peu en altitude, hein, et elle donne sur la grande baie d'Atuona qu'on appelle la baie des traîtres. Et puis, un peu plus loin, il y a Motu, comme on dit, c'est-à-dire un îlot, Anakee, qui est la sentinelle, en gros, de la grande baie. Donc, c'est magnifique. Ça donne à la fois sur la montagne et puis sur la mer. Et puis, la case elle-même, le faré, c'est une case en bois avec un toit de tôle ondulée. Vraiment, tout ce qu'il y a de plus simple. Et donc, Jacques Brel, les signes extérieurs de richesse, a toujours fait deux. Et ça lui va très, très bien. C'est, bon, il faut dire qu'à l'époque, bon, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien, il n'y a pas de gîte. Donc, il prend la première maison qu'il trouve. Mais alors, ça lui convient parfaitement.
Il n'y va pas pour vivre en ermite. Hein, il y va aussi pour rencontrer les habitants, les locaux. Évidemment, il sympathise, il crée des liens avec ses voisins.
Ah, très, très, très vite. Hein, il va avoir plein d'amis. Hein, et donc, il va y avoir, par exemple, la fermière qui s'appelle Victorine, qu'il appelle Victorine. Il y a le maire, donc Guy Rosy. Il va y avoir un professeur qui s'appelle Marc Bastard, qui va devenir son grand ami sur place. Mais il y a des marquisiens, et puis il y a aussi des sœurs. Il y a un collège, le collège Sainte-Anne, et puis il y a 9 sœurs qui s'en occupent. Et lui, l'anticlérical convaincu et militant, même.
Ouais, il va quand même sympathiser avec les sœurs. Alors le virus de l'aviation le reprend. Il pensait qu'à cause de sa maladie et du poumon en moins du morceau de poumon qui avait été enlevé, il pensait qu'il ne pourrait plus piloter. Et au détour d'une rencontre, il apprend que si, dans certaines conditions, il peut encore piloter.
Voilà, exactement. Donc, Il revient d'un voyage à Bruxelles parce que les médecins lui ont demandé de rentrer tous les 6 mois pour faire un contrôle médical, pour voir simplement qu'il n'y a pas de récidive, de début de récidive, que tout va bien. Et donc ça, il le fait 2-3 fois, et donc tout va bien. Et une de ces fois-là, il arrive à Papété, et donc après, il y a encore 1500 kilomètres, donc à l'époque, environ 6 heures de vol jusqu'à Ivaoua. Et le pilote du Twin Otter, c'est un petit avion de 19 places, pilote et copilote inclus, le reconnaît. Et puis Jacques Brel s'est installé juste derrière le pilote et le copilote. Et à ce moment-là, il y a Michel Gauthier qui lui dit « Mais si tu veux, bon, au Marquis, en Polynésie, tout le monde se tutoie. Hein. » Mm-hmm. Il dit « Si tu veux, il a vu l'intérêt que Brel avait pour le pilotage, tu peux prendre la place du copilote. » Donc Jacques Brel est ravi. Et là, il lui dit « Mais tu sais, dans le temps, moi aussi, je pilotais, j'avais les brevets, mais avec un poumon en moins, c'est fichu. » Et là, Michel Gauthier lui dit « Mais non, pas du tout. Pour un professionnel peut-être, mais un pilote privé, suffit de passer une visite médicale. Et si tu as la capacité thoracique suffisante, tu pourras revalider ta licence. » Et c'est ce qui va avoir lieu.
Donc il ne va pas se priver de reprendre la voie des airs. Quelques bribes de voix de Jacques Brel aux commandes de son avion, s'amusant à faire peur à ses amis à bord.
C'est là que ça va être bien, c'est là que c'est bien, attention. Je vais très bas là, hein. Faites gaffe les mecs. Allez. Go, vas-y.
La voix de Jacques Brel, pleine de facéties, je vais très bas, faites gaffe les mecs. Alors, il ne s'en servait pas juste pour faire des frayeurs à ses amis à bord. Il a aussi rendu de nombreux services aux habitants de l'île avec son avion.
Oui, oui, c'est surtout ça. Et là, vraiment, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Parce que pour aller vite, on peut dire qu'il devient le bon samaritain des Marquisiens. Il se rend compte qu'ils sont complètement oubliés de Tahiti, comme on le disait tout à l'heure, mais sur tous les plans, les infrastructures sanitaires, la culture, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de dentiste, il n'y a pas d'ophtalmologue. Il y a des femmes qui meurent à l'accouchement, etc. Donc il se dit, c'est pas possible, je peux pas laisser ces gens-là comme ça. Donc sur le plan sanitaire, il va faire des évacuations sanitaires, des blessés, des malades, des femmes enceintes, jusqu'à Papété, donc 3000 km aller-retour quand même, tout bénévolement, bien entendu. Hein. Il va prendre des passagers qui n'ont pas la possibilité autrement d'aller d'une île à l'autre. Il va transporter du courrier, parce que sinon il y avait ce qu'on appelait là-bas une goélette, c'est-à-dire un cargo mix qui passait une fois par mois, qui apportait le courrier. Donc là, lui, il va livrer le courrier toutes les semaines jusqu'à une île qui s'appelle Wapu, où il y a une piste d'aviation qui est absolument dingue.
Et alors, il paraît même que parmi les passagers et les passagères, il y aura une petite fille qui est montée à bord de son avion et qui, aujourd'hui, est pilote de ligne chez Air Tahiti.
Air Tahiti, oui, oui, exactement. Ouais. Oui,
donc, il n'a pas fait que vivre ses rêves, il en a fait décoller chez certains certaines.
C'est ce qu'il voulait. Hein. Parmi les projets qu'il avait pour les Marquis, parce qu'il avait beaucoup de projets. Il a installé le cinéma, il a fait plein de choses.
Alors ça, c'est intéressant, le cinéma. Il a créé un cinéma, alors avec les complicités, parce qu'il a gardé quelques complicités dans le showbiz. Alors, oui. Claude Lelouch lui donne les projecteurs et il installe un cinéma.
Voilà, parce qu'il écrit à Lelouch et dit, on peut pas laisser ces gens-là mourir idiots, parce que donc je vais faire un cinéma. Et il fait construire un mur blanc par le maire en plein air, et puis il récupère 2 projecteurs 35 mm, il fait venir des films qu'il va récupérer lui-même à Tahiti avec son avion, et il les projette avec Madly, et il organise 2 séances hebdomadaires, parce qu'il se rend compte que mêler les enfants et les adultes, ça fonctionne pas toujours. Donc il y a une séance pour les enfants, une séance pour les adultes, et il fait un prix vraiment défiant toute concurrence, mais il fait quand même payer pour montrer que la culture a un prix.
Ouais. C'est le ciné-club. Il organise le ciné-club sur son île. Alors,
et jamais il ne diffusera un film dans lequel il joue lui-même. Ah, il avait joué. Jamais.
Le but, c'est pas de passer pour la star.
Non, non.
Il a fui ça. Il ne veut pas recréer le schéma. Alors, il avait dit qu'il voulait arrêter les tours de chant. Il n'a jamais dit qu'il voulait arrêter la chanson.
Exactement.
Et très rapidement, l'envie de composer revient.
Oui, ça revient assez vite. Donc, il arrive en novembre 75 à Ivaoua et il est repris le 1er septembre 76. C'est-à-dire 2 ans jour pour jour après la mort de Jojo, qu'on a évoqué tout à l'heure, Georges Passier, qui était son secrétaire et grand ami.
Mais c'était plus que son secrétaire. Il était un peu plus âgé, on a l'impression que c'est son mentor. C'est lui qui l'a un peu éveillé à une certaine conscience politique.
Politique, absolument.
Et il était très attristé de la mort de cet ami Jojo. Son avion s'appelait Jojo en hommage à
voilà,
Jojo.
Il l'avait appelé comme ça. Et oui, c'était quelqu'un qui a énormément compté pour lui, qu'il aimait. Et puis, quand parfois il voyait un regard un peu bizarre chez les gens quand il disait qu'il aimait tendrement Jojo, il disait mais La tendresse, quoi, la tendresse. Et, et donc, non, c'est quelqu'un qui a énormément compté dans sa vie. Ouais. Et donc, la première chanson qu'il voulait absolument écrire, c'est une chanson en hommage à son ami, Jojo. Ouais. Et il va mettre 6 mois à la terminer. Et pendant ce temps-là, les autres vont piétiner. Ouais. Parce qu'il veut absolument d'abord finir cette chanson-là.
Et c'est une des plus belles chansons de Brel.
Ah, merveilleuse.
Jojo.
Jojo, voici donc quelques rires, quelques vins, quelques blondes. J'ai plaisir à te dire que la nuit sera longue à devenir demain. Jojo, moi je t'entends rugir quelques chansons marines où des Bretons devinent que Cinqa doit dormir tout au fond du brouillard. 6 pieds sous terre, Jojo, tu chantes encore. 6 pieds sous terre, tu n'es pas mort, Jojo.
Alors, quand est-ce qu'il enregistre cette chanson, Fred Hidalgo ? Puisqu'il est aux Marquises, hein, oui. Donc il la compose, puis après il faut qu'il rentre en France, voilà. Ou en Belgique.
Donc, en gros, il va mettre un an à écrire ses nouvelles chansons. Il prévient Eddie Barclay, qui était son producteur, de lui réserver un studio. Et puis il va mettre 3 semaines à les enregistrer, en septembre-octobre 77. Et avec Jacques Brel, ça l'embine pas, parce que ce dernier album, comme pour les autres, il enregistre en direct, avec les musiciens, et la plupart du temps, une seule prise suffit. Au maximum, il en fait 2 ou 3. Et donc, ça va très très vite. Alors simplement, il n'enregistre que 2 chansons par jour, parce qu'il a quand même un poumon en moins. Donc il se ménage un petit peu. Mais on a retrouvé sur place des cassettes, puisqu'il travaillait qu'un mini-cassette pour s'enregistrer lui-même. Et je peux vous assurer que sa voix est intacte comme sur le disque, et que donc il n'y a pas eu de traficotage. On a parlé du souffle qu'il aurait eu, etc. Mais pas du tout. Il avait une voix formidable.
L'album sort en 1977. Brel a 48 ans et il est bien décidé à vivre encore longtemps aux Marquises. Il a pris une concession pour un terrain pour 99 ans. Malheureusement, il n'en profitera pas aussi longtemps.
Boom sur le nouveau 33 tours de Brel. Hier, il était sur les radios. Il sera aujourd'hui chez les disquaires. On s'attend d'ailleurs à une razzia malgré le million d'exemplaires déjà prévus. Jacques Brel, lui, n'a fait qu'une apparition rapide en Europe pour graver ce disque avant de repartir aussitôt loin du monde. Il a regagné les îles Marquises en Polynésie française où il vit sa vie nouvelle depuis plusieurs années. Maurice Grimaud, qui est journaliste à FR3 à la station de Tahiti, nous a expliqué ce qu'était cette vie de nouveau Gauguin de la chanson.
C'est à Tuana, chef-lieu d'Ivaoua, l'une des îles de l'archipel des Marquises, que vit Jacques Brel depuis qu'il a amarré ici son bateau en 1976. Aux Marquises donc, Jacques Brel a retrouvé la sérénité, la paix avec lui-même et avec les autres. Il a su se créer ici, parmi les Polynésiens, un monde bien à lui, fait de nouvelles et de solides amitiés. Le village d'Atuona, depuis le gendarme en passant par le pêcheur de poissons volants, protège naturellement Jacques et sa compagne des agressions du monde extérieur.
Extrait d'Interactualité du 18 novembre 1977. Fred Hidalgo, le dernier album de Brel, composé aux Marquises, est un immense succès.
Oui, oui, on vient de l'entendre, 1 million de précommandes, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du disque,
tout simplement. Il est attendu, personne ne l'a oublié, tout le monde reveut Jacques Brel.
C'est le nouvel album de Jacques Brel, c'est quelque chose de phénoménal, tout le monde l'attend. Et en plus, c'est un album un petit peu en forme de carte postale avec cette chanson, Les Marquises. Mais lui est déjà reparti. Ouais. Quand le disque sort, le 17 novembre, la veille de ce qu'on vient d'entendre, de ce témoignage, il est déjà reparti. Il va faire un mini tour du monde d'ailleurs, il passera par Hong Kong, et parce qu'il n'est pas question pour lui de faire de la promotion. Ouais. Il faisait des chansons, il les enregistre, point.
Et comment il vit ce retour qui est quand même rempli de succès ? Est-ce qu'on sait s'il il l'a goûté quand même, ce succès ?
On le sait, oui. Non, il ne l'a pas goûté. Au contraire, il ne l'a pas apprécié du tout. Non pas qu'il n'ait pas apprécié que les gens n'aiment pas ses chansons, ce n'est pas ça, mais Eddie Barclay avait mis tout un stratagème, on appellerait ça du marketing aujourd'hui, pour que l'album soit un succès encore plus phénoménal que les millions de précommande. Hein. Il y avait eu tout un système de livraison dans des containers avec des codes, des cadenas avec des codes qui étaient livrés simultanément à tous les grossistes. Ah oui. Et puis les bon, enfin bref,
du marketing.
Et du marketing, ça avait créé, amplifié la chose. Et Brel, quand il a appris ça, parce que c'était pas du tout prévu, s'il avait revu Barclay, je pense qu'il se serait bien engueulé avec lui.
Ouais, d'accord. Ouais. Non, donc non, lui, il n'avait pas envie, il ne cherchait pas le nombre.
Il pensait en vendre 200, 300 000, mais pas plus.
En juillet 1978, hein, donc vraiment 6 mois après la sortie de cet album, un cancérologue à Tahiti diagnostique une récidive du cancer du poumon. À ce moment-là, je le disais, lui, il était reparti, il avait pris une concession, un terrain pour construire une maison un tout petit peu plus confortable pour 99 ans. Lui, il était reparti pour très longtemps au Marquise.
Oui, il avait beaucoup de projets. Il voulait créer un aéroclub. Il voulait apprendre aux jeunes marquisiens à piloter, etc. Et puis, il voulait une maison plus confortable, pas pour lui, mais pour faire venir ses amis comme Lino Ventura, parce qu'il se rendait compte que dans la petite case qu'il avait, bon, c'était pas sérieux, quoi, pour accueillir des gens d'avant. Et donc, il avait vraiment l'intention de rester sur place. Il avait plein de projets, comme le disait le maire d'Atouana tout à l'heure dans le témoignage. Et sauf qu'il rentrait tous les 6 mois pour son contrôle médical et à un moment donné, il en a eu assez et il a arrêté de rentrer, il est resté sur place et puis il a été pris de difficultés respiratoires, il s'est mis à tousser, etc. Il a décidé d'aller à Papété pour consulter et il se trouvait qu'il y avait un grand cancérologue, Lucien Israël, qui était de passage, qui lui a dit « mais il faut absolument rentrer à Paris et puis que je vous hospitalise dans mon service ». Et donc il est rentré, là on est en septembre 78, il va y avoir plusieurs semaines de soins et tout va très bien se passer, c'est-à-dire que la tumeur va régresser énormément parce que... Et donc normalement tout devait bien se passer. Il y avait une convalescence qui était prévue. Il avait prévu de prendre une maison du côté d'Avignon pendant un an à peu près, et peut-être de retourner aux Marquises ensuite. Et sauf qu'il
meurt d'une embolie pulmonaire. C'est pas du cancer, mais c'est d'une embolie pulmonaire massive le 9 octobre 1978 à l'âge de 49 ans. Le grand Jacques laisse un grand vide. On imagine l'émotion du grand public et de ses nombreux fans, parmi eux un certain Georges Brassens.
Je ne pense pas qu'il soit mort, Brel, avec ce qu'il a fait, avec ce qu'il a écrit, avec ses qualités d'homme et ses qualités d'écrivain, d'auteur. Il n'est pas mort, c'est comme s'il était vivant. Je pense qu'il est plus vivant maintenant que jamais. On s'y attendait évidemment un petit peu à sa mort, puisqu'il avait ce fameux mal dont on n'ose pas dire le nom, mais on croyait que ça allait mieux, puisqu'il y a 15 jours, Lino Ventura voulait qu'on déjeune ensemble. Et malheureusement, moi, ce soir-là, je n'étais pas libre. Et il paraît qu'il allait mieux. Il était très content, il était heureux de vivre. Je crois que, sauf les derniers jours, vraisemblablement, je crois qu'il est mort en pleine joie de vivre. Il n'avait jamais été si heureux que depuis qu'il habitait les îles, là-bas, avec sa femme, là, avec son orgue électrique. Il faisait des chansons, il faisait la cuisine, il aimait beaucoup faire la cuisine. Il avait l'électricité qui s'arrêtait à 7 heures du soir, alors il trouvait ça amusant.
Jacques Brel repose au cimetière d'Atouona, commune d'Ivaoa, aux îles Marquises, non loin de la tombe de Gauguin.
Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la mer comme tu regardes un puits. Les femmes sont lascives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. La pluie est traversière, elle bat de grain en grain quelques vieux chevaux blancs qui fredonne Gauguin. Veux-tu que je te dise, gémir n'est pas de mise aux Marquises.
Les Marquises de Jacques Brel. Merci Fred Hidalgo. Je rappelle le titre de votre livre paru en 2013. L'aventure commence à l'aurore et une édition augmentée qui paraîtra le 12 septembre prochain aux éditions de l'Archipel sous le titre Le voyage au bout de la vie. Un grand merci à vous Fred Hidalgo.
Merci.